RCF.
Marie-Jo Guichenuy, en 1928, une encyclique a été publiée par le pape Pie XI qui affirmait « L'union des chrétiens ne peut être pensée autrement qu'en favorisant le retour des dissidents à la seule véritable Église du Christ ». On revient de loin quand même. Et ne pas s'arrêter sur ces difficultés, ces tensions très fortes qui ont duré pendant des siècles entre les catholiques et les protestants en particulier dans notre pays, ça serait faire l'impasse sur un pan essentiel de notre histoire. Est-ce qu'on est encore très marqué par ça et puis par les violences terribles qui ont eu lieu, tant côté catholique que protestant en France ?
Malheureusement, oui. Quelquefois, l'histoire des uns et des autres fait beaucoup de ravages et continue de maintenir des distances. C'est assez incroyable. Je me souviens, il y a quelques années, ma collègue protestante de la catéchèse œcuménique, avec qui je suis devenue amie, me dit, tu sais, ma mère ne comprend pas qu'on soit amis. Sa famille, elle est des Cévennes. Et dans les Cévennes, ils ont vécu les fameuses dragonnades de Louis XIV. Ça a été des viols, des violences faites aux hommes et aux femmes. Plein d'hommes sont partis aux galères. Les femmes ont été enfermées avec mortes dans la fameuse tour de Constance. Certaines y sont restées quelques mois parce qu'elles y sont mortes de faim, de tout. Et puis, il y a la figure de Marie Durand qui est restée plusieurs années et qui a pu vivre avec ce mot dans la tête et dans le cœur, résister. Mais effectivement, on vient de loin. Souvent, les gens me disent, mais pourquoi les protestants en France, ils n'aiment pas faire un signe de croix ? Je leur dis, ben, c'est très simple. Parce que les dragons de Louis XIV leur imposaient de se convertir en les obligeant à faire un signe de croix. On va en Allemagne, ils n'ont pas la même histoire. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? Des protestants, luthériens et même réformés qui font des signes de croix. Voilà. Et ça, si on ne comprend pas ça, les minorités qui sont blessées, torturées, gardent toujours dans leur corps et dans leur histoire personnelle de famille tout cela.
Et ça se transmet finalement au-delà des mots, c'est un peu comme la psychogénéalogie, ça infuse dans et la manière d'envisager les situations. Et
tout à fait. Et si on ne regarde pas cette histoire qui est blessée, eh bien ça demeure et on peut faire des quiproquos ou aller vers des choses qui ne sont pas très justes. Quoi.
Donc, premier mouvement, regarder ce qui a été. Le reconnaître. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Quel est peut-être le pas suivant ?
Eh bien, le pas suivant, c'est de faire ce qui s'est fait en 2017, qui a été quelque chose de relativement révolutionnaire, puisque en 2017, les luthériens du monde entier, les catholiques du monde entier, ont commémoré, le mot est important, parce que je pense qu'ils ont dû se disputer un bon moment pour savoir quel est le mot qu'il fallait prendre, eh bien, ils ont commémoré la réforme. Ça, mais c'était inimaginable vu la citation du pape que vous avez pris tout à l'heure. Ça, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, exactement ça. C'est-à-dire, ils ont essayé d'avoir un regard critique et lucide sur cette histoire passée et de l'écrire ensemble. C'est-à-dire, il y a un chapitre qui a été écrit par les protestants, un autre chapitre qui est écrit par les catholiques pour rester fidèles à l'évangile. Et ce document, il est absolument extraordinaire. Il nous dit que la véritable unité de l'Église ne peut exister que comme unité dans la vérité de l'Évangile de Jésus-Christ. Et ils ont essayé de faire la vérité. Et chacun, parce que les luthériens, en Suisse, ils ont quand même, au sud de l'Allemagne, ils ont quand même un peu mis sur le bûcher aussi des personnes. Les anabaptistes, les mennonites, il n'y a pas si longtemps que ça que les luthériens du monde entier ont demandé pardon aux mennonites parce qu'ils ont été martyrisés par les luthériens. Nous, on croit que c'est que l'Église catholique qui a martyrisé les autres. Non, non. On s'est bien entrechoqués tous, là. C'est pas très, très beau.
Donc, ce texte fait mémoire de tout ça, l'évoque de façon claire.
J'ai envie de vous donner lecture d'un tout petit, je vous promets que c'est petit. En 2017, nous devons confesser ouvertement que nous avons été coupables devant Christ de briser l'unité de l'Église. Cette année de commémoration nous offre deux défis, la purification et guérison des mémoires, voilà, on est là, et la restauration de l'unité chrétienne en harmonie avec la vérité de l'Évangile de Jésus-Christ. Et ils font référence à une phrase du pape Jean XXIII, « Ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise ». Voilà, ça devrait être le cœur de l'écuménisme, de l'unité chrétienne aujourd'hui.
Ça, c'est fondamental.
Ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise.
Plus grand.
Plus grand, oui. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à faire. Bien sûr, on a des tas de choses qu'on ne peut pas faire, mais il y en a des tas qu'on peut faire. Donc, allons-y. Hein.
Donc, ce qui est plus grand, qu'est-ce que c'est finalement ?
Je pense que ce qui est plus grand, c'est le Christ. Mais on va dire, ça peut être la Bible aussi. Ça peut être la charité. Alors, la Bible, ben, c'est tous les groupes bibliques qui existent. Ça y est, on n'a aucune limite à pouvoir faire ça. La charité, alors, j'aimerais tellement qu'on puisse encore plus faire des choses ensemble. Sur Lyon, il y a deux ans, trois ans, on s'est rendu compte, plusieurs églises, plusieurs paroisses, qu'on avait tous des réfugiés, on n'avait pas de lieu pour les mettre. Eh bien, avec des assomptionnistes, on a mis en place un foyer ensemble. Donc, il y avait anglicans, protestants unis et catholiques. Et on a dû accompagner, je ne sais pas combien, entre 6 et 8 personnes qui étaient d'origine différente. Là, c'est tout à fait possible.
Au nom de ?
Au nom du Christ.
Marie-Jo Guichenui, l'œcuménisme, ça ne se vit pas simplement à partir de bons sentiments, d'intuitions comme ça, un peu informelles. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une feuille de route ?
Oui, enfin ça dépend, mais on en a plein. On en a plein, en tout cas du côté catholique, on a des documents, on a le directeur de l'œcuménisme, on a un vade-mecum pour les évêques. Mais on a un document qui est sorti en 2017, qui est absolument extraordinaire, ça s'appelle « Du conflit à la communion ». Ça dit tout le titre. C'était signé par les luthériens et les catholiques. Et ils nous ont offert 5 impératifs à vivre après. Donc, je peux lancer dans ces 5 impératifs. Et on verra que c'est une perspective nouvelle dans les relations œcuméniques. Donc, les catholiques et luthériens s'engagent à se placer dans la perspective de l'unité, non point du vu de la division, afin de renforcer ce qui est commun, même si les différences sont plus faciles à voir et à ressentir. C'est-à-dire, on ne va pas vers l'autre pour voir ce qui n'est pas comme moi, mais on y va pour voir tout ce qui est possible de faire ensemble. Donc ça, c'est le premier impératif, c'est déjà pas mal. Alors après, deuxième impératif, luthériens et catholiques doivent continuellement se laisser transformer par la rencontre de l'autre. J'en ai déjà parlé, par un témoignage de foi des uns à l'égard des autres. En fait, c'est d'aller vers l'autre et de dire à l'autre « tu es important à mes yeux ».
Et j'ai quelque chose à apprendre de toi.
Oui, et j'ai quelque chose à apprendre de toi. C'est exactement ce que Dieu dit dans le livre d'Isaïe. Troisième impératif, catholiques et luthériens doivent s'engager à chercher l'unité visible et en étudier les étapes concrètes et attendre sans se lasser vers ce but. C'est-à-dire, on n'attend pas que tout est bien ficelé pour s'y mettre, quoi. Alors, en pratique, il y a des tas de choses qui se font. Donc, là-dessus, c'est bon. Quatrième impératif, catholiques et luthériens devraient ensemble redécouvrir la puissance de l'évangile de Jésus-Christ pour notre époque. Là, on a plein de choses du côté de l'évangélisation. On essaye de chercher ensemble tout plein d'expériences qui peuvent nous aider à évangéliser ensemble. Et le cinquième impératif, tout ce beau monde doit ensemble témoigner de la grâce de Dieu en proclamant l'évangile et en se mettant au service du monde. Voilà.
C'est tenable ?
Mais oui, c'est tenable. C'est tenable parce que je suis témoin que ça existe déjà. Si je prends chaque impératif, j'ai la chance de pouvoir en vivre pas mal sur Lyon avec d'autres responsables des autres églises.
Dans quelle mesure est-ce que ça n'est jouable que dans la mesure où il y a une réciprocité ? C'est-à-dire qu'il faut bien que tout le monde soit d'accord pour adopter et respecter ces 5 impératifs.
Oui, mais quand il y a eu des blessures, quand il y a eu des souffrances, il faut du temps et de la bienveillance. Donc parfois, le premier pas, il faut bien qu'il y en ait un qui le fasse. Regardez ce qui se passait après la guerre entre la France et l'Allemagne. Qui aurait cru qu'il serait le fer de lance de l'Europe qu'on connaît aujourd'hui ? Personne n'aurait misé un sou là-dessus, et pourtant. C'est un peu pareil pour les églises. Il faut bien qu'il y en ait un qui fasse le premier pas. Si on attend toujours que l'autre le fasse, c'est mal barré. Donc, pour le pardon, c'est un peu ça, quoi. Et donc, c'est de se dire, OK, l'autre est différent. L'autre, il a même des choses très différentes de moi. Mais comme Jésus me le demande, je vais aller à sa rencontre. Paul n'avait pas spécialement très envie de rencontrer Pierre à une certaine époque. Et pourtant, ils se sont écoutés. Et ils ont décidé des choses ensemble.
Au bout du compte, quel est l'objectif de l'unité entre chrétiens ? Puisque ça n'est plus de faire revenir les uns et les autres dans le giron de celle qui considère qu'elle détient la vérité. C'est quoi ? C'est une cohabitation amicale ?
C'est une manière de faire communauté où l'autre est regardé dans toute sa richesse. Mais la plupart des églises diront que l'unité ne sera vraiment visible que le jour où on sera autour de la même table. Et là, c'est la question qui fâche. Mais c'est une vraie souffrance pour tous. Hein, là.
C'est-à-dire l'Eucharistie pour les catholiques.
L'Eucharistie, au cours de l'Eucharistie catholique, on puisse accueillir tous les autres. Quand je vais chez les orthodoxes, que je puisse communier alors que je ne peux pas. Quand je vais chez les protestants, que je puisse communier et inversement alors que je ne peux pas. Et qu'eux non plus. Voilà,
Pour l'instant, ce n'est pas possible.
Non, c'est cette communion, ce compagnonnage qui est nourri par une autre part de Jésus qui dit « prenez et mangez, prenez et buvez ». Et ça, on ne peut pas le faire ensemble. Ça, c'est vraiment une grosse souffrance pour tout le monde.
On conclut demain. Merci.